Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire au Nord Kivu. L'Union africaine se dit préoccupée par la situation humanitaire qui prévaut dans cette province. Elle se dit aussi favorable au déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU pour mettre fin aux guerres à répétition dans cette partie du pays. Pendant ce temps, les combats continuent entre les deux factions du M23 et en réaction, la société civile du Nord Kivu demande au M23 de mettre un terme à ces affrontements. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 11 mars 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat André-Alain Atundu, ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris. Il est cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CRD. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Maître Kavota, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Bouendwa Eluga Essi, politologue et professeur à l'ISC Uvira au Sud Kivu. Il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Boris Wasulu de Bukavu au Sud Kivu. Le fait que le leader du M23 ne s'entende plus montre que l'heure déclin est proche, que l'Union africaine laisse la RDC gérer ses problèmes au lieu de surchauffer les esprits des gens par des déclarations stériles, ni l'apport d'une quelconque armée dans l'Est. Nestor de Kisangani en province orientale, l'appel de l'Union africaine sur la force internationale neutre est une vieille chanson utopique. Le salut ne viendra que de notre armée. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
L'Union africaine se dit préoccupée par la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Elle a dépêché à Goma la semaine dernière son représentant pour la région des Grands Lacs afin de s'enquérir de la situation. Selon l'ambassadeur Boubacar Soudjari, l'Union africaine est pour le déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU pour mettre fin à la catastrophe humanitaire, conséquence des guerres à répétition dans l'est de la RDC. Boubacar Soudjari, plutôt représentant spécial de la présidente de la Commission africaine pour la région des Grands Lacs, est au micro de Patrick Maki de Virunga Business Radio.
Aujourd'hui, la dynamique est très forte, tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau de l'Union africaine, pour que cette force, nous le souhaitons, soit là le plus rapidement possible, parce que nous connaissons les enjeux sur le terrain. L'Union africaine est absolument au courant de la détresse humanitaire des populations de Goma. Elle sait exactement les problèmes de sécurité que les opérateurs économiques, les transporteurs, les populations rencontrent du fait de l'action des forces négatives, pas seulement le M23, mais l'ensemble des forces négatives. La brigade spéciale d'intervention est en mesure effectivement de pallier tous les problèmes. Le 5 mars aux Nations Unies, des décisions ont été prises pour accélérer le déploiement de la brigade spéciale d'intervention. Je pense que tous les efforts sont en cours et moi je suis confiant que cette force sera là dans quelques semaines.
Et pendant ce temps, les combats se poursuivent entre les deux factions du M23. Aucune accalmie des combats n'est observée dans la région de Rugari, à 40 km au nord de Goma. C'est depuis 3 jours que deux factions du M23, celles de Makenga Sultani et de Baudouin Ngahouye, s'affrontent dans cette localité. Selon des sources concordantes, au moins 5 civils ont été tués, 4 autres blessés et plusieurs habitations détruites par des obus depuis samedi dernier. Entre-temps, un très grand nombre de la population est actuellement en déplacement. Le point de la situation avec vous, Gisèle Cage.
C'est depuis 7h ce matin que d'intenses combats opposent les hommes de deux factions du M23 en plein centre de Rugari et dans les collines surplombant cette localité. Des hommes fidèles à Makenga sont depuis 3 jours maintenant à la pourchasse de ceux du colonel Baudouin Ngahouye et Bosco Ntaganda. Selon un officier du général autoproclamé Makenga Sultani, leur mission est de neutraliser leurs dissidents et prendre contrôle de l'état-major de Baudouin Ngahouye, établi établi à Kibumba, à 10 km du lieu de combat, mais dans le camp du colonel Ngarouye, rien n'est encore perdu, déclare son porte-parole, car nous maintenons toujours nos positions initiales, affirme-t-il. Côté bilan, la société civile du Nord Kivu parle d'une dizaine de tués parmi les civils et plusieurs maisons détruites depuis samedi dernier. Mais le notable de Rugari indique qu'au moins 5 civils ont trouvé la mort et 4 autres blessés. Plusieurs populations de Rugari sont actuellement en fuite vers Rumwangabo, Kibumba et dans les collines avoisinantes. D'autres qui n'ont pas eu d'issue pour sortir sont toujours terrés chez eux sous des multiples bombardements de deux camps. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi.
Merci Gisèle Cage pour ce reportage. André Alain Tundu, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris. Vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CRD. Quelle analyse vous faites? CDR, merci. Quelle analyse vous faites de cette situation? L'Union européenne qui s'est dit préoccupée par la catastrophe humanitaire. L'Union africaine due aux guerres à répétition dans cette partie du pays. Entre-temps, les combats se poursuivent dans cette même partie du pays entre deux factions du M23, mouvement qu'on considère comme groupe rebelle.
Oui. Je crois que la déclaration de l'Union africaine n'apporte rien de nouveau, malheureusement, à part la commisération sans appui concret au niveau des finances, au niveau des troupes, parce que le fait que l'ONU annonce l'arrivée de ses troupes internationales n'empêche pas l'Union africaine, de son côté, de lever des troupes pour le Congo, dont l'importance n'est plus à démontrer. Alors, s'agissant de la guerre proprement dite, c'est une guerre entre, disons, c'est comme une guerre, une bataille, où entre les gens de même groupe qu'ils sont d'ailleurs, hein, c'est une guerre de positionnement par rapport à Kinshasa et par rapport à Kigali. L'enjeu aujourd'hui, c'est de consolider ses positions. Certains voudraient reprendre Rumwangabo, d'autres voudraient conserver, pour que, par rapport à Kampala, par rapport à Kigali, par rapport à Kinshasa, il apparaisse comme un interlocuteur valable, le seul interlocuteur valable. Bon, ceci par ailleurs, sur le plan de la méthodologie, cela nous rappelle un peu le problème des RCD, on voit la main du Rwanda derrière. C'est RCD avec Wamba et puis RCD 2 avec Onyamwisi, etc. Donc je pense que il n'y a pas fondamentalement de donne nouvelle. L'expression est peut-être évidente, l'expression est spectaculaire, mais les donnes sont les mêmes. Ils poursuivent toujours le même objectif.
Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais fait? Il y a deux factions d'un mouvement rebelle qui se battent sur le territoire congolais, mais qu'est-ce que le gouvernement fait?
Sur le plan de l'histoire, c'est pas la première fois. Souvenez-vous, le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Kisangani, sur le territoire congolais. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit poursuivre ses objectifs stratégiques, c'est-à-dire exploiter les ouvertures données par l'accord d'Addis Abeba pour actionner les relations de partenariat bilatéral pour avoir la facilité d'obtenir immédiatement de troupes pour augmenter la puissance dissuasive de son armée et se défendre un peu comme au Mali. Parce que ces troupes bilatérales, n'est-ce pas, vont accélérer l'arrivée des troupes internationales. Voyez-vous ce qui s'est passé au Mali, c'est le Tchad, la France, et après les autres viennent. Et pour faire bonne mesure, on a intégré le Tchad dans une opération où elle n'était pas en principe impliquée. Donc aujourd'hui, le Congo doit pouvoir identifier celui de ses alliés ou partenaires qui est disposé à mettre à sa disposition ou à intervenir à ses côtés dans les meilleurs délais avant que les troupes internationales n'arrivent.
Et par rapport à Kigali, est-ce que ces affrontements pourraient avoir un enjeu?
Par rapport à Kigali, oui. Chacun voudrait apparaître comme l'homme. Il y a certainement deux parties. Chacun voudrait apparaître par rapport à Kigali comme l'allié qu'il ne faut pas lâcher. Parce que si vous occupez Romain Gabo, vous occupez le terrain, vous avez chassé une partie, eh bien Kigali sera obligé de traiter avec vous. C'est pourquoi je dis que c'est une guerre de positionnement par rapport à Kigali aussi.
Alors on va prendre pour vous, André Alain, cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale. Je disais qu'on va prendre pour vous, André Atundu, cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale.
Maître Christian Biona, de l'ONG des droits de l'homme, groupe logiste à Kisangani, province orientale. L'Union africaine et tant d'autres puissances de ce monde doivent arrêter de trouver la situation très préoccupante. Au lieu de poser des actions concrètes allant dans les sens et mettre fin à cette guerre à répétition dans les Kivu. Les Congolais meurent chaque jour et je me demande si ça ne leur dit pas grand-chose, car le gouvernement congolais est déjà incapable d'assurer la sécurité de sa population. Voilà pourquoi il faut vraiment une attention particulière de la communauté internationale et de tout le monde.
Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais est incapable d'assurer la sécurité de sa population?
Non. La sécurité est une préoccupation collective, c'est-à-dire une préoccupation des institutions, une préoccupation des citoyens. Lorsque les institutions sont les seules à se préoccuper et à agir pour la sécurité, eh bien, l'apport des citoyens est toujours indispensable. Parce qu'il y a des complices. L'armée est là. Mais si les adversaires peuvent trouver des éléments de cinquième colonne, des citoyens normaux le jour et la nuit qui sont avec l'ennemi, donc la responsabilité du gouvernement et donc de l'armée est première, mais la responsabilité des citoyens n'est pas moins importante. Parmi nous, il y a des gens qui trahissent le pays, disons-le, pas seulement dans l'armée, mais dans la population. Et ici, j'aimerais, n'est-ce pas, rappeler ce proverbe des Chinois j'utilise ou que je rappelle toujours. La mouche ne se pose que dans une bouche ouverte. Ça veut dire que à notre frontière de l'Est, il y a des gens qui sont disposés à accepter les ennemis, à les protéger et à travailler pour eux.
Merci André Alain Atundu. Maître Marc Kavota, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame.
Alors, je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la Société civile du Nord Kivu. Comment vous analysez cette situation sécuritaire qui reste toujours préoccupante dans cette partie du pays?
Merci, madame, pour cette question. Mais permettez que je commence par saluer Monsieur Alain-André Atundu et le professeur Bouendoua, avec qui nous allons débattre ce soir, et ainsi que les auditeurs de Radio Okapi qui apprécient ce magazine Dialogue entre Congolais. Madame, pour revenir sur votre question, comment nous analysons la situation? En réalité, nous devons avouer que la situation humanitaire au Nord Kivu est très dramatique, comme l'a reconnu l'Union africaine, et elle ne peut pas faire indifférente la communauté des nations. Aussi, au regard au contexte actuel, la préoccupation de l'Union africaine, nous pensons, est à sa place, parce qu'elle répond effectivement à cet appel. Vous vous rappelez que nous avons lancé le 8 mars, où nous nous sommes dit qu'il fallait effectivement que la communauté internationale compatisse avec les peuples congolais et les populations du Nord Kivu pour mettre fin à ces souffrances imposées aux populations par des groupes armés et par des États étrangers. Aujourd'hui, madame, des milliers de personnes, des milliers de familles sont contraintes à fuir leurs habitations, leurs villages, leurs territoires, à passer des nuits à la belle étoile, à même les sols, sans manger, sans se couvrir, sans soins médicaux et produits de première nécessité. Vous vous rappelez, madame, ce qui est arrivé très récemment à Kichanga, où encore des gens ont été rendus déplacés au cas de la MONUSCO. Jusqu'à présent, leur situation est dramatique, leurs maisons ont été détruites, incendiées et pillées. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à Rugari, qui est imposé encore une fois par ceux qui ont la gâchette facile le M23, la situation est dramatique sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire. Non seulement à territoire de Rutshuru où l'M23 se trouve, mais également à territoire de Nyiragongo, la population fuit pratiquement tout le groupement de Kibumba aujourd'hui pour à trouver refuge ici à Goma. Dans les territoires de Lubero où les FDLR font encore la loi, dans les territoires de Beni où les ADF, la Lui et les autres milices continuent à parler d'eux, finalement on réalise que cette province, c'est une province où il ne fait plus beau vivre et la situation est tellement compliquée. Alors lorsque l'Union africaine s'est dit favorable à la voix de la brigade des Nations Unies pour traquer les forces négatives, lorsqu'elle s'est dit préoccupée par la situation humanitaire, nous disons, nous saluons cette bonne intention. Mais comme l'a dit l'auditeur à l'entrée de l'émission, on était chaque fois à saluer rien que les bonnes intentions, tant que ces bonnes intentions ne se traduisent pas en actes. L'Union africaine a un rôle à jouer. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler à ce qu'il joue effectivement son rôle. Au-delà des promesses pieuses, nous voudrions voir qu'elles soient engagées dans la danse, que le FUAS et le Conseil de sécurité des Nations Unies a envoyé dirigeant cette brigade de traquer les forces négatives, y compris les M23, parce que pendant que nous parlons, madame, la situation est très, très, très inquiétante.
Aujourd'hui,
avec les affrontements qui se poursuivent à Rugari depuis samedi, et la route est coupée entre les grands nord de la province et le sud à partir de Rugari. Au moins 2000 ménages ont fui Rugari pour trouver refuge dans les localités voisines, Rumangabwe et environ. Il y a des colonnes de véhicules qui sont obligées d'attendre parce qu'il n'y a pas de passage. On s'est dit jusqu'à Zaka, ces souffrances, on doit mettre fin à ces souffrances.
Maître Omar Kavota, c'est vrai que l'Union africaine vient de réagir. Est-ce que cette réaction n'arrive pas en retard parce que ça fait quand même longtemps que cette guerre a commencé?
Naturellement, elle arrive en retard, mais aussi nous nous disons que l'Union africaine a semblé se dissocier de la solution parce que depuis... Voilà presque une année que le M23 va conclure depuis son aventure et l'Union africaine n'a fait que nous endormir debout. Nous pensons qu'il n'a fait que promettre, n'a fait que déclarer la situation est préoccupante, la situation est inquiétante, mais jusqu'à cas de déclaration de ce genre. Vous savez, madame, que lorsque les États ont signé cet accord cadre à Addis Abeba, la population du Nord Kivu commençait à aspirer au retour de la paix. Mais au lendemain de cette signature, on a vu ce que le M23 est en train de simuler comme aventure de décision et d'attaque. Aujourd'hui, c'est le désespoir qui s'élit et qui gagne de l'ampleur dans les chefs de la population.
Merci.
Avec l'avènement de cette mascarade du M23, on voit des victimes le nombre de victimes qui s'alourdit.
Merci, Maître Omar Kavota.
On a des gens de la population, des gens qui sont tués et qui sont réduits à déplacer. Donc, la situation vraiment inquiétante.
Merci, Maître Omar Kavota. Professeur Bouendoua Elugaesi, je rappelle que vous êtes politologue et professeur à l'ISC Ouvira au sud Kivu. Vous êtes directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Il y a cet auditeur, Kahima Tembera, depuis Bukavu, qui dit ceci: la paix durable en RDC ne peut venir que par la solidarité des Congolais. Et je pense que l'hypocrisie observée au niveau de la communauté internationale, la CIRGL et l'Union africaine serait pour nous une leçon. Est-ce qu'on peut parler de l'hypocrisie de la communauté internationale, de l'Union africaine ou de toutes ces institutions internationales par rapport à la situation de la RDC?
Merci madame. Permettez-moi d'abord de saluer mon aîné l'ambassadeur et puis mon ami Omar Kavota et puis tous les auditeurs de Radio Okapi. Je pense que les questions qui nous sont posées sont des questions sur lesquelles nous revenons assez souvent. Mais moi j'ai comme l'impression que ce qui se passe actuellement au Congo prétendu du Mans, on pense que le Rwanda est fort, mais je pense que c'est notre faiblesse en tant que Congolais qui fait la force du Rwanda. Nous parlons beaucoup de guerre, de bataille, mais qui veut la paix, comme on disait en latin, civis pacem para bellum. On ne prépare pas du tout assez la guerre pour avoir au moins des muscles, les montrer et pour que les autres puissent un peu avoir peur. Nous sommes devenus, comme dit mon ami Bitakwira, ce que les Bafuliro appellent les Kikangabalimi, c'est-à-dire une sorte de vipère qui ne mord jamais, qui est là, au fait, qui effraie, qui n'effraie personne. Et moi, je dirais tout simplement que la situation que nous sommes en train de vivre découle de tout un faisceau d'éléments qui sont convergents. Nous avons, au fait, une capitale qui est totalement à l'ouest, les réalités se passent à l'est et le regard est totalement croisé et symétrique, à tel enseigne que j'y reviendrai pour montrer que là on se retrouve un peu comme en se regardant un peu comme des véritables chiens de faïence. Deuxième élément de toute cette insécurité, je pointe un tout petit peu l'inefficience du gouvernement central. Je n'ai jamais vu gouvernement aussi, couché, aussi pratiquement aveugle, insensible à tout ce qui peut se commettre dans cette partie de la République. J'en reviens, je sais bien de quoi je parle. J'habite Uvira, je viens de Goma où j'ai passé 3 semaines, et quand je vois tout ce que j'ai vu là-bas, c'est totalement sidérant. En troisième lieu, je pointe les inconséquences des gouvernements provinciaux eux-mêmes. La situation actuellement, aujourd'hui que vit Goma, c'est une situation, insécurigène, si je peux utiliser ce mot-là. Vous voyez une ville totalement désaxée, déconcertée, une ville vraiment, là aussi encore une fois, j'aurai beaucoup de choses à redire. Quatrième élément de l'insécurité, je pense la gloutonnerie spatiale de tous nos voisins. Nous avons par exemple à Uvira un espace qu'on a perdu, l'ambassadeur va y revenir, Gatumba par exemple, c'est un espace du Congo que le Burundi a pris, on n'en parle jamais. Et à côté de cet espace se trouve ce qu'on appelle les Rukoko où habitent les FNL, c'est-à-dire des miliciens de partout qui viennent par là et fait qui créent l'insécurité. L'insécurité assez souvent, sempiternelle, qui n'en finit pas. Cinquième élément, je pointerai, je reviendrai d'une manière ou d'une autre, les frontières poreuses, les frontières gruyères. Dans cette partie de la République, c'est devenu comme une sorte d'auberge espagnole. Les gens viennent et reviennent. C'est une véritable cour du roi Péto. Tout le monde peut s'exprimer comme il veut. Je pense que là aussi, encore une fois, je pointe du doigt et les gouvernements provinciaux et les gouvernements centraux. Et enfin, sixième élément, je pourrais enrichir mon analyse, c'est vraiment les véritables tangages idéologiques de ceux qui animent la vie politique dans ce pays. On a l'impression que le Congo donne l'impression d'un véritable bateau ivre où on se dirait que le capitaine et tout son équipage a perdu tout repère, sans boussole, on rame à vue et on navigue j'ai l'impression vraiment que c'est un bateau totalement ivre qui ne prend pas en compte les enjeux stratégiques, les enjeux idéologiques et tous les autres enjeux qui sont afférents.
Et quelle est votre analyse par rapport à la déclaration de l'Union africaine quand elle dit que la situation humanitaire est vraiment catastrophique par rapport au tableau que vous venez de nous brosser? On peut dire que cette institution n'a pas tort de dire que la situation est vraiment humanitaire et catastrophique?
Je dirais tout simplement, sans jeu de mots, cette institution n'a pas tort d'avoir raison. Tout simplement parce que nous n'existons que peut-être sur le papier. Un véritable tigre en papier on est devenu, et donc à la limite n'importe qui vient chez nous, commence une guerre, la finit quand il veut, le Rwandais manipule des acteurs chez nous, le lendemain ça change, on nous donne une sorte de cadeau, je me souviens en latin on disait, le Rwandais qui ne peuvent donner aux Congolais un cadeau, en latin on disait quid id Est, Timéo, Danaos et Dona Ferrantes. Quoi qu'il en soit, j'ai peur des Grecs quand ils donnent des cadeaux. Et ici, vraiment sans jeu de mots, je dirais quid quid id est Timéo, Rwandanos et Dona Ferrantes. On ne peut pas attendre un cadeau des gens qui nous attaquent sempiternellement. N'en déplaise à mon frère, l'ancien ambassadeur, moi j'ai comme l'impression que la vraie question, elle est de savoir si le Rwanda nous attaque, nous répliquons tel que Nyerere l'avait fait contre l'Ouganda en 1979. Et de manière frontale, directe, on sait ce qu'on fait.
Merci professeur. Monsieur Alain Atundu, faiblesse des Congolais, l'efficience du gouvernement central par rapport à tout ce qu'on vit à l'Est aujourd'hui, dans le Nord Kivu, comme vient de le dire le professeur.
Mais le professeur a certainement raison, mais il a oublié de impliquer ou d'extirper la responsabilité du simple citoyen. C'est la vénalité de nos populations, de certains membres de cette population, et la cupidité de certains membres de la classe politique qui sont à la base. Et donc, que peut faire le gouvernement central si il se trouve des gens dans la région qui trouvent que pour peser au Congo, il faut aller au Rwanda. Voilà, je m'exprime.
Le gouvernement ne peut rien faire, selon vous?
Contre la volonté des gens. Vous savez, ils jouent au double jeu. Ils vont jouer au double jeu. Ici, ils se présentent comme victimes, mais là-bas, ils trouvent que c'est leur intérêt. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? Voilà pourquoi le gouvernement a commencé à rechercher des éléments nouveaux dans l'armée, hein, pour qu'il y ait un corps nouveau. Voilà pourquoi le président a certainement pris l'initiative de ces concertations, pour que c'est un appel au patriotisme, à une citoyenneté nouvelle, n'est-ce pas? La sécurité de notre pays. Je vous l'ai dit, ça dépend des institutions, mais les institutions ne fonctionnent que par les hommes. Et par les hommes, ceux qui sont dans les institutions et ceux qui constituent l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement est pollué. Les institutions sont polluées, peut-on le dire aussi. Alors, voilà pourquoi je pense que le gouvernement a eu raison, mais doit pousser davantage, n'est-ce pas? Parce que, malheureusement, les bonnes intentions ne suffisent pas à faire de bonnes actions. Et quand le professeur dit que pratiquement l'Est du Congo est abandonné à son triste sort, je me permettrai de penser le contraire. Quand on voit le nombre d'initiatives que le gouvernement et les chefs de l'État prennent, n'est-ce pas, à Mani, etc., etc., et l'implication des ressortissants du Kivu, même dans les organisations internationales, n'est-ce pas, qui traitent de ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que nous nous battons vraiment, nous voulons sauver l'Est du Congo, ou protéger les gens de l'Est du Congo contre eux-mêmes.
Alors, André Alain Tundu, il y a cet auditeur qui nous écrit de Bouille, en province orientale, Kassamba Onago, qui dit ceci. Ce qui se passe au Nord qui vous démontre que la RDC doit se prendre en charge comme tout État responsable, au lieu de se fier à des rencontres cosmétiques, aux résolutions qui ne font que retarder le retour de la paix dans notre pays.
Mais la vie internationale n'est pas comme ça. Même les États-Unis, qui sont la plus grande puissance, ils comptent sur les autres. L'OTAN, c'est l'Europe qui contribue à la sécurité des États-Unis, n'est-ce pas? Et donc, nous ne pouvons pas évoluer, encore que nous n'aurions même pas les moyens. Peut-on faire la guerre aux 9 voisins? Ne serait-ce que ça. Sans compter les voisins d'intérêt économique qui se situent au Tchad, qui se situent en Europe, qui se situent aux États-Unis. Donc, nous devons faire montre d'intelligence stratégique. D'où la nécessité d'avoir une cohésion nationale. Il faudrait que nous puissions identifier d'abord les intérêts structurants de notre pays et structurants de notre présence dans le monde. Et globalement, qu'est-ce qu'on dit? L'intégrité territoriale est une valeur, elle n'est pas marchandée. Or, aujourd'hui, il y a des enfants de ce pays, des députés par surcroît, qui pensent qu'on ne peut pas soutenir la guerre n'importe comment, parce qu'on a perdu les élections, il faut pactiser avec l'adversaire pour pouvoir revenir en position de force.
Merci monsieur Atundu, je vais vous redonner la parole. Maître Omar Kavota, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka dans la province de l'Équateur.
Chef de c'est à vous, Jean-Bernard Mibé-Komissia, Bandaka, province de l'Équateur. Que l'Union africaine cesse de nous distraire. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui et elle connaît les commanditaires de cette situation, mais elle s'était. Quant aux affrontements entre factions rivales des M23, ils constituent le fruit de l'impunité dont bénéficient tous ces mouvements qui sèment la désolation de la part de la communauté internationale.
Maître Kavota, réaction.
Oui, je suis convaincu que l'auditeur parle d'une distraction de l'Union africaine, mais de toute façon, il ne faudrait pas prendre cette façon de voir les choses de l'Union africaine comme étant une distraction. Ce que nous déplorons, c'est qu'il se limite à des promesses pieuses, ça passer aux actions, et puis et sa déclaration intervient, il faut le dire, en retard. Vous savez, madame, pour l'instant, la solution est déjà tracée à travers l'accord cadre. Mais ce que nous sommes en train de voir, après la signature de cet accord cadre qui devait permettre à ce qu'on puisse mettre fin à cette aventure de groupes armés au nord Kivu, de plus en plus, on est en train de voir que c'est de notre côté que nous sommes aussi en train de montrer une certaine défaillance dans la recherche de solutions à notre problème. Et ça, il faut les décrier ici. Parce que, au regard de ce qui s'observe maintenant, on est en train de voir d'abord un retard délibéré dans la voie de cette brigade devant traquer les groupes armés, mais profitant de ces retards, on est aussi en train de voir des côtés le gouvernement en train de forcer vers certains accords qui pourraient être des accords de contre nature avec le M23, des accords qui risqueront de dédouaner le M23 en intégrant une de ses branches, parce qu'aujourd'hui il s'est mis l'initiation, en intégrant une de ses branches dans l'armée et peut-être dans les institutions, ce qui fait que cette force internationale neutre risque de venir être engagée contre des petits frères, comme les AZAP-SMS ou les Maïmaï, en laissant cette baleine qui est le M23, alors qu'il a craché sur l'autorité du gouvernement en favorisant l'agression de notre pays. Et il y a certaines analyses qui se développent à Kinshasa, malheureusement, qu'il faut quand même décourager. Là, je voulais revenir sur cette analyse de M. Atundu qui a dit que le mouche n'entre que dans les toilettes où les portes sont grandement ouvertes et s'il faut considérer la RDC comme notre toilette. Les portes, si elles sont ouvertes, elles ne sont pas ouvertes par les fils et les filles de l'Est comme ils tentent de le démontrer. Mais si les portes sont ouvertes, c'est par le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a la charge de la protection, de la gestion des frontières. Et aujourd'hui, qu'on est en train de, lorsqu'on a vu les FARDC réoccuper des zones qui étaient déjà abandonnées par le M23, nous pensons qu'il n'y a pas de fils ou de filles du Nord Kivu qui sont intervenus pour que les ordres soient donnés et retirer ces troupes des zones déjà occupées.
Et
là,
vous pensez,
ça montre à suffisance que le gouvernement n'est pas engagé pour restaurer l'autorité de l'État, et ces analyses permettraient malheureusement d'encourager l'État, le pouvoir au moindre effort, et même l'encourager à une certaine inertie. Pourtant, nous souffrons effectivement de cette inertie ici à l'Est.
Merci Maître Omar Kavota. Professeur Bouendoua et Lugaïsi, est-ce que cette division au sein du M23 pourra avoir un impact sur les pourparlers de Kampala? Parce que finalement, les gens se demandent avec quelle faction du M23 le gouvernement va continuer les négociations ou les pourparlers à Kampala.
Je pense que les conséquences sur cela se verront à l'usage. La vraie question, elle sera dans la durée, et puis comment les acteurs en présence, c'est-à-dire le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais et ougandais, avec l'accord cadre, arrivent à régler cette question. Mais moi, je reste sur l'analyse qui m'a beaucoup plu de l'ambassadeur Atundu. Quand il parle de vénalité des institutions, de la complicité, duplicité des Kivusiens, ou bien bien on ne peut pas faire la guerre à nos neuf voisins, c'est-à-dire, et surtout aussi comprendre ce qu'on a, j'ai écrit ici les voisins d'intérêt économique, un sigle vie. Mais je pense que là, sincèrement, on devrait aussi se poser la vraie question de l'insécurité et de tous ces accords, c'est parce que le Kivu n'existe pas. Et je pense que la vraie question, elle est là. Le Kivu, il faut inventer le Kivu. Il faudrait arriver que les gens du Kivu eux-mêmes ne donnent pas le bâton à se faire battre, et pas à l'intérieur du Kivu et à l'extérieur du Kivu. Cette complicité, duplicité nous met mal à l'aise. Et dire que inventer le Kivu, parce que c'est là qu'on doit en venir, c'est aussi tout simplement arriver à dire que le nord du sud Kivu, c'est aussi le sud du nord Kivu. Et cette idée-là ne germe pas assez. Le problème qui touche le Kivu sont des problèmes qui touchent tout le Kivu. Et le Kivu, c'est d'abord le lac. Et j'aimerais bien aussi qu'on pose une autre sorte d'inéquation, arriver à ne pas prendre l'est du Congo comme si c'était l'ouest du Rwanda. Et là... Donc je disais que le nord du sud Kivu, c'est le sud du nord Kivu, mais aussi en arriver à dire que, l'est du Congo, ce n'est pas l'ouest du Rwanda. Et là-dedans, il y a vraiment ce que l'ambassadeur appelle la complicité et duplicité qui fait que nous avons l'impression de dire du bien sur la scène nationale, mais sur la scène régionale, nous sommes en train de nous défausser. Mais la vraie question que vous me posez là, sur le M23, les accords de Kampala, qui sera soutenu par qui? Moi, je pense que, comme on disait en swahili, un petit proverbe, Amlipa et Mwimba Jindi Uchagua Wimbo, c'est-à-dire, c'est celui qui paye le ménestrel qui choisit la chanson. Alors, nous allons voir sur cette scène-là, entre les vrais acteurs, qu'est-ce qu'on va arriver à faire.
Alors, professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui vient de Goma au Nord Kivu.
André, en ville de Goma. Ça fait presque une décennie qu'il y a beaucoup de morts ici au nord Kivu. Il y a des déplacés. C'est une catastrophe. L'Union africaine qui a fait la déclaration disant qu'ils vont envoyer des militaires pour venir traquer les forces négatives ici à l'Est. Je pense que ce n'est pas la première déclaration. Il y a longtemps qu'ils sont en train de faire des déclarations. Chaque fois qu'ils font des déclarations, nous disons, oh, peut-être nous allons vers la fin de nos souffrances. C'est pourquoi moi, je suis presque pessimiste par rapport à leur énième déclaration. C'est ainsi que moi, je pense que c'est à nous, Congolais, de pouvoir prendre conscience et nous unir et enfin voir comment monter des mécanismes pour voir comment nous libérer.
Il faut pas compter sur l'Union africaine ou la communauté internationale pour trouver des solutions aux problèmes du Congo aujourd'hui, professeur.
Je rappellerai à monsieur Kassere qu'à ce qu'on appelait les Ujamaa na Kujitegemea. Il faut compter d'abord sur ses propres forces, mais compter aussi sur la famille congolaise. Je pense qu'avec ça, nous n'aurons pas besoin d'aller quémander des soutiens. Nos frères africains nous aideront quand ils le pourront, mais il faudra d'abord qu'on s'aide soi-même. Il faudrait bien que la dynamique soit interne, que après, si on a besoin de recourir à autre chose, nous puissions y recourir. Mais d'abord, la volonté de vouloir vraiment défendre nos frontières, bouter dehors l'ennemi jusqu'à ses derniers retranchements. Et je pense que c'est par ça seulement qu'on peut y arriver.
Merci, professeur. Julien Kasereka de Goma, au Nord Kivu. Il est vrai que c'est une situation dans laquelle l'Union africaine n'a rien à faire car ses compétences et ses forces sont très limitées. C'est l'affaire des grands, donc la communauté internationale. Christian de Kinshasa, cette situation n'est pas à la hauteur de l'Union africaine. Tant que les Congolais eux-mêmes ne trouvent pas des voies et moyens de dialoguer, les pays voisins et les multinationaux vont en profiter pour piller les richesses de l'Est aux grandes dames de sa population. Sylva de Bukavu, Sud Kivu, la situation à la crise congolaise ne viendra ni de l'Union africaine ni de la CIRGL, car tous les pays qui nous agressent sont membres de ces institutions qui, du reste, sont restées muettes depuis les débuts de ces événements. Robert Bahomé de Bukavu, Sud Kivu, il ne suffit pas d'être favorable à l'envoi d'une force internationale neutre à l'est de la RDC, ni de s'indigner outre mesure de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. Encore faut-il surtout trouver ou chercher urgemment une solution efficace pour mettre une fois pour toutes fin à tous ces problèmes de guerre et de sécurité presque structurelle à l'est de la RDC. André Ala Tundu, il faut trouver une fois pour toutes une solution pour mettre fin à ces guerres, des guerres qui se vivent dans le Nord Kivu aujourd'hui. Quelles pourraient être les solutions pour mettre fin à ces guerres?
D'abord, je pense qu'il n'y a pas une solution, parce que c'est une situation complexe. Mais on peut résumer que la guerre à l'Est, c'est une guerre d'intérêts. Intérêts politiques, intérêts sociologiques, intérêts économiques, etc. Et donc, nous, Congolais, nous devons savoir identifier nos intérêts majeurs. Par exemple, l'intégrité du territoire est un intérêt que nous ne pouvons brader. À partir de l'intégrité territoriale que nous ne pouvons brader, nous devons identifier les intérêts économiques, lesquels peuvent être conformes ou peuvent se conjuguer avec les intérêts des autres pays. Parce qu'il n'est pas possible que tous ceux qui nous agressent, n'est-ce pas, aient le même type d'intérêt. Par exemple, les multinationales. Mais pourquoi nous ne faisons pas directement appel à eux? On prend contact, on doit organiser une sorte de réunion des amis du Congo, si vous voulez, où toutes ces grandes puissances économiques qui sont gênées de ce qu'ils font, n'est-ce pas, se sortiraient au grand jour pour dire voilà, nous faisons ça, et nous prenons les dispositions conséquentes. Nous devons savoir défendre nos intérêts, parler aux adversaires. Et ici, je pense qu'il faut d'abord situer la part des choses. On parle de la paix au Kivu. Le gouvernement ne poursuit pas directement la paix. Le gouvernement poursuit d'abord la fin de la guerre. Alors, parce que la paix a plusieurs autres implications. Il y a des intérêts majeurs qui jouent, n'est-ce pas? Les intérêts économiques, immédiats et lointains. Je vais donner un cas.
On n'a pas beaucoup de temps.
Mais c'est important. C'est important.
Résumez-vous.
Le lac Tchad a un problème. À un moment donné, on a pensé au Congo, au fleuve. Maintenant, on passe à l'Ubangi. Oh, l'Ubangi, c'est un confluent du Congo. Donc, vous voyez que il y a tellement d'intérêts que nous devons identifier et savoir gérer. Nous ne pouvons pas évoluer en ignorant la CIRG. Je suis d'accord avec ce monsieur que la plupart des pays qui nous attaquent font partie de ces organisations. Mais nous faisons tous partie de l'ONU. Et l'ONU est fait justement pour régler ces problèmes entre États.
Merci, André Alatundu. Maître Omar Kavota, quelles pourraient être les solutions aujourd'hui?
Oui, d'abord, je voulais avant tout préciser qu'il n'y a pas de division au CDM23, il n'y a qu'une simple mascarade. Et le Rwanda est en train de nous distraire à créer à deux branches au CDM23, une branche qui risque d'être intégrée dans le gouvernement et une autre qui va poursuivre la violence armée. Et donc, les Congolais doivent ouvrir l'œil. Par rapport aux solutions, je pense qu'il y en a trois que je propose. La première solution serait de limiter les souffrances des populations du Nord Kivu. Et là, l'Union africaine, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, devait diriger à envoyer cette brigade internationale maître pour traquer les forces négatives, y compris le M23, parce que plus elles traînent, plus on est en train de nous exterminer et elles risquent d'arriver quand on ne sera plus là. La deuxième piste de solution, je l'adresse au gouvernement. Là, je pense que le gouvernement doit mettre fin pour parler du JAR, pour parler de Kampala, qui en réalité ne fait que pour pérenniser le problème, parce qu'ils devront finir par l'intégration des éléments comme le M23, et là ce serait encore très dangereux, et d'ailleurs les gens qui ont humilié notre pays, il ne faudrait pas accepter les intégrer.
Troisième solution.
Je pense que le chef de l'État devait accélérer la tenue du dialogue national, parce que c'est à travers ce cadre que les Congolais peuvent se définir la nouvelle vision de la gouvernance politique, économique.
Merci.
Et sociale dans l'unité et dans la concorde nationale.
Merci, Maître Omar Kavota. Je considère cela aussi comme votre conclusion, professeur Bouendoua. Vos propositions et puis votre conclusion.
Ma proposition, ma conclusion serait d'abord que vraiment nos gouverneurs cessent d'être des proconsuls et puis qu'on en finisse un tout petit peu avec les attitudes auxiliaires, voire ancillaires de ceux qui gouvernent au niveau des provinces, et enfin en finir avec les pratiques douteuses des assemblées provinciales qui, écartelées entre tout, n'arrivent pas à maintenir une vision qui soit claire à dicter à nos gouvernements. Je pense que c'est une révision une refonte totale des institutions et des pratiques qu'il faudrait, et pour cela, vivement demain, le dialogue qu'on nous annonce.
André Alain Atondou, en guise de conclusion.
La solution, c'est la cohésion autour du leadership républicain des institutions que nous avons choisies, en l'occurrence le président de la République, qui est le garant du fonctionnement de l'État. Ensuite, le gouvernement ne peut rien faire contre la Constitution, dans ses contacts, ni contre les crimes contre l'humanité. Et donc, soyons tranquilles, nous avons donné un mandat à quelqu'un qui mène de belle manière cette lutte. Eh bien, attendons voir le résultat. Le combat n'est pas facile,
merci,
le combat est complexe,
André.
Mais il n'a pas abandonné l'équipe.
Merci André Alain Atondou, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu, Alain Funk, Samuel Kachap, sous la supervision de Pélékip et Lamondo, qui m'ont aidé à préparer et réaliser cette émission. La technique était assurée par Héritier Sidiakala. Au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonsoir chez vous et bon type de programme sur la fréquence de la paix.